France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. L'heure serait-elle à la coopération politique en France? Depuis hier, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu s'attelle à consulter les forces politiques en vue de la constitution de son gouvernement et le casse-tête, on le verra, demeure entier. On parlera aussi addiction chez les jeunes, que ce soit des effets psychologiques de TikTok comme de leur consommation de drogue. L'actualité à l'étranger, cette fois-ci avec notre invité aujourd'hui, on posera la question de l'intrusion délibérée ou pas de drones russes en Pologne. Enfin, on reviendra sur cette onde de choc qui a traversé hier les États-Unis après l'assassinat d'un influenceur trumpiste, Charlie Kirk, lequel s'était imposé comme une voix majeure de la jeunesse conservatrice. En bon soldat, c'est dans son nouveau costume que l'ex-ministre des Armées Sébastien Lecornu a donc entamé hier ses consultations pour former un gouvernement. En réalité, celui qui, un peu plus tôt sur le perron de Matignon, avait pourtant promis d'être, je cite, plus créatif, aura reçu tour à tour le président du parti présidentiel, le patron des Républicains, de même que les chefs de file des députés et sénateurs LR, le vice-président du Modem et le président d'Horizon, autant dire tous les réservistes du bloc central. Et ce matin encore, rebelote, le Premier ministre a renoué avec les réunions hebdomadaires de ce socle commun. Il doit ensuite enchaîner sur des bilatérales avec chacun des présidents des deux assemblées. Quant aux oppositions, eh bien, elles seront conviées dans un second temps. Pour le dire autrement, il faudra certainement encore patienter pour apprécier véritablement cette fois-ci la réputation d'habile négociateur de Sébastien Lecornu. Et pourtant, le temps presse. Lui-même le sait bien, d'ailleurs, puisqu'en évoquant hier un décalage préoccupant entre vie politique et vie réelle, le nouveau Premier ministre a mis le doigt sur une réalité décrite aujourd'hui par tous les sondages. La rupture, sinon le dégoût de l'opinion pour les politiques. Pas moins de 7 Français sur 10 jugent la situation sans issue. 8 sur 10 voient dans la séquence actuelle un spectacle navrant. Plus des deux tiers souhaitent la démission du président. Enfin, 69% des personnes interrogées estiment que la nomination de Sébastien Lecornu ne correspond pas à leurs attentes, soit le pire accueil pour la nomination d'un Premier ministre à Matignon depuis la dissolution. Sans compter que la France n'est pas non plus une caserne, en témoigne le contraste. Il y a entre d'un côté les images du tapis rouge déroulé à l'hôtel Matignon et de l'autre celle des manifestations visant à bloquer le pays. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors le nouveau Premier ministre n'en promet pas moins des ruptures, un changement de méthode sur la forme et sur le fond. Avec quelle chance de réussite est-ce que le lieutenant du président est en mesure d'abord de convaincre la gauche?
C'est toute la difficulté de la tâche confiée au nouveau Premier ministre. Car sa nomination à Matignon est d'abord une manière de consolider l'alliance avec la droite. Sébastien Lecornu vient de l'UMP, il s'entend bien avec Bruno Retailleau et le chef de l'État lui a donné pour mission d'être avant tout un animateur du socle commun qui réunit la Macronie et la droite républicaine, ce à quoi il va s'employer. C'est par conséquent à partir de cette base consolidée que le Premier ministre va devoir ouvrir le jeu à gauche et les bases de la négociation semblent déjà avoir été posées par le président du parti Place Publique, allié des socialistes Raphaël Glucksmann, invité de RTL ce matin. L'abrogation de la réforme des retraites n'est pas une des conditions prioritaires de l'accord, a dit Raphaël Glucksmann, pas plus que le retour de l'ISF, l'impôt sur la fortune, mais il y a pour lui une chose non négociable.
Une chose simple, vous avez une situation qui est profondément inacceptable, où les milliardaires les plus riches payent moins d'impôts en proportion à leur fortune que les classes moyennes. Donc nous avons mis sur la table la taxe Zuckmann.
Et c'est la base de tout accord, c'est ce que vous
dites. C'est la base de tout accord.
La difficulté réside dans la profonde hostilité qu'exprime la droite à l'encontre de cette mesure qui prévoit de taxer à hauteur de 2% le patrimoine des plus riches. Et c'est ce qu'a rappelé le président des Républicains du Sénat, Gérard Larcher, ce matin sur BFM TV.
Est-ce que Gérard Larcher, je vais mettre les pieds dans le plat, est-ce que vous êtes OK pour la taxe Zuckmann?
Mais non, nous avons voté contre au Sénat au mois de juin.
Oui, mais bon.
C'est une mesure d'abord anticonstitutionnelle. Pour une raison très simple, nul ne doit être obligé de se séparer de son patrimoine pour payer l'impôt. La seconde des choses, c'est que ça conduira à l'exil fiscal.
On peut constater à ce stade que les bases de la négociation paraissent peu compatibles. Mais à droite, les Républicains se disent conscients qu'il faudra faire des concessions. Et à gauche, le Parti Socialiste et Place Publique savent aussi qu'ils devront édulcorer leurs exigences. La tâche du Premier ministre sera donc de trouver le bon curseur pour rallier les uns sans fâcher les autres. Ce sera difficile, mais il n'a pas le choix, car s'il n'y arrive pas, son bail à Matignon ne dépassera pas quelques semaines ou quelques mois.
Merci Stéphane Robert.
De Toulouse à Rennes, en passant par Bordeaux, Lille ou Paris, de nombreuses métropoles ont vu défiler hier des cortèges fournis.
Des cortèges encadrés par des policiers et gendarmes aussi mobilisés en masse pour l'occasion, au point que certains rassemblements ont parfois été émaillés d'incidents, gaz lacrymogènes, interpellations. Toujours est-il que des dizaines de milliers de participants sont malgré tout descendus contre l'austérité, les inégalités, le déni démocratique. Reste désormais à savoir si cette contestation a vocation à s'élargir ou à s'essouffler. Le prochain rendez-vous est fixé au 18 septembre.
Et puis cette crise politique illustrée par un nouveau Premier ministre sans gouvernement ni budget devrait également s'inviter aujourd'hui à la réunion de la BCE.
Oui, la Banque Centrale Européenne, elle aussi, est aujourd'hui confrontée aux turbulences de la deuxième économie de la zone euro. Pour autant, ni les déboires politiques français, pas plus d'ailleurs que la faiblesse allemande, ne devraient influencer à court terme les décisions de l'institution qui, sauf énorme surprise, devrait maintenir son principal taux directeur à 2%.
La commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs rendait ce matin ses conclusions et elles sont sans appel.
TikTok est dangereux pour les mineurs. Plus exactement, cette plateforme expose en toute connaissance de cause nos enfants à des contenus toxiques et addictifs. Pierre Roper, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté ce matin à la remise donc des conclusions de la commission qui propose tout simplement, Pierre, d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
Oui, c'est un rapport accablant pour TikTok, pour la rapporteuse de la commission, la députée Renaissance Laure Miller. Le constat est sans appel, TikTok est en effet dangereux pour les mineurs.
On a vu en fait un océan de contenus néfastes, des contenus de promotion du suicide, d'automutilation, des troubles du comportement alimentaire qui sont mis en avant, une exposition à la violence sous toutes ses formes, du racisme, de l'antisémitisme, de la pédocriminalité, et des contenus néfastes qui bénéficient d'une large audience.
La commission d'enquête a ainsi estimé que TikTok ne se préoccupe absolument pas de la santé mentale des jeunes. Selon le rapport, TikTok, je cite, « ne se limite pas à accentuer les troubles psychiques existants, elle semble en favoriser l'émergence ». La commission d'enquête a donc dressé une liste de 43 recommandations pour l'ensemble des réseaux sociaux. Laure Miller.
Évidemment, je prône beaucoup plus de sensibilisation et de prévention que c'est le cas aujourd'hui. Mais une des mesures phares, c'est évidemment l'interdiction des réseaux sociaux en dessous de 15 ans. Moi, j'estime qu'il faut poser une limite dans la société, qu'évidemment, ce sera peut-être imparfait, mais que ça permettra quand même à la fois d'accompagner les parents lorsqu'ils sont dans la négociation perpétuelle avec leur enfant et leur adolescent, et surtout de protéger très concrètement, parce que si elle est mise en œuvre, on aura au moins une jeunesse épargnée jusqu'à 15 ans.
Parmi les autres recommandations, l'instauration d'un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans après 22 heures, une réglementation des algorithmes plus stricte, mais aussi un possible délit de négligence numérique pour sanctionner les parents qui ne se protègent pas de leurs enfants face aux outils numériques. Ce matin, dans un communiqué, TikTok a exprimé son désaccord, affirmant avoir mis en place de solides protections pour les adolescents. De son côté, le président de la commission, le député PS Arthur Delaporte, a annoncé avoir saisi la procureure de la République de Paris pour demander l'ouverture d'une enquête.
Merci Pierre Roper ainsi qu'à Raymond Albouy pour les moyens techniques.
Et on parle de la jeunesse, toujours et encore, mais pour des comportements à risque, cette fois-ci en recul.
Une enquête publiée ce matin nous livre une photographie en effet plutôt encourageante des usages précoces chez les jeunes de 16 ans de drogue à la fois licite et illicite, en l'occurrence l'alcool, le tabac et le cannabis. Alors cette enquête a été menée dans 37 pays et au-delà du constat global qui montre presque partout une baisse de la consommation, il faut noter Tara Schlegel que l'usage des ados en France a particulièrement diminué.
Oui, c'est une enquête menée tous les 4 ans qui permet de se comparer aux 36 autres pays européens et d'observer chaque tendance nationale. Prenons d'abord le tabac. Un jeune Français sur 5 l'a déjà essayé à 16 ans en 2024. Or, c'est peu comparé à la médiane européenne de 32%, presque un tiers. Et surtout, l'usage quotidien des cigarettes est en chute libre chez nous. Les ados étaient 16% à fumer tous les jours en 2015. Ils ne sont que 3,1% aujourd'hui. Pour la cigarette électronique, la France se situe en milieu de tableau. 38% de nos ados ont déjà vapoté au moins une fois. 5,8% l'utilisent tous les jours. L'enquête se penche aussi sur la consommation d'alcool. Thomas, 7 Français sur 10 y ont déjà goûté à 16 ans. C'est un peu moins que les 75% de la médiane européenne. Mais l'Observatoire parle d'un usage très important, en particulier de l'alcoolisation rapide, c'est-à-dire au moins 5 verres au cours d'une soirée dans le mois qui a précédé l'enquête. Ça concerne 22%, presque un quart donc, des adolescents français. Même si ce chiffre a baissé de 9 points en 10 ans, ça reste un problème de santé publique. Enfin, le cannabis. Là encore, la France se classe dans le tiers des pays les moins consommateurs. 8,4% des adolescents français ont expérimenté le cannabis en 2024. Chiffre en forte baisse, puisqu'ils étaient 31% il y a 10 ans.
Midi passé de 39 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Deux jours après les frappes israéliennes contre des cadres du Hamas qui ont soulevé l'indignation d'une bonne partie de la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui pour examiner sa réponse. De son côté, le Qatar dénonce une violation de sa souveraineté. Ce matin, le Premier ministre Mohamed Al-Thani a donné d'ailleurs une rare interview à la chaîne américaine CNN. Les précisions depuis Doha de notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud.
48 heures après l'attaque d'Israël, le Premier ministre du Qatar a toujours du mal à trouver ses mots. Il tient d'abord à rappeler que la présence du Hamas à Doha n'était nullement secrète, qu'Israël a utilisé durant des années ce canal établi à la demande des États-Unis. C'est un acte barbare, lâche-t-il, qui met en péril la sécurité même des otages israéliens. Quant à la suite, ce rôle de médiateur, le Premier ministre qatari avoue le reconsidérer. Netanyahou nous fait perdre du temps, estime-t-il. Le Qatar était pourtant le seul lieu de communication possible. L'alternative, c'est la guerre. Et quand le Premier ministre israélien menace le Qatar, menace de continuer à poursuivre les dirigeants du Hamas s'ils ne sont pas traduits en justice, Mohamed Al-Thani ne cache pas son indignation.
Nous n'acceptons pas une telle menace venant d'un tel personnage, Netanyahou. Il demande qu'on les traduise en justice, mais c'est lui qui doit être jugé. C'est lui qui est poursuivi par la Cour pénale internationale. C'est quoi la prochaine étape ?
Et c'est bien la question qui agite non seulement le Qatar, mais au-delà. Les pays du Golfe réfléchissent à une action collective régionale, une riposte judiciaire peut-être. Une chose est sûre, beaucoup ici se disent qu'ils ne peuvent plus compter pour leur sécurité sur le parapluie américain.
L'incursion hier de drones russes en Pologne était-elle accidentelle comme la conséquence logique de l'intensification des frappes aériennes de la Russie sur l'Ukraine, ou bien intentionnelle comme une provocation de plus orchestrée par Vladimir Poutine, notamment pour tester les limites de l'OTAN? Ces derniers jours, les autorités militaires polonaises avaient elles-mêmes alerté la population des zones frontalières du danger que pouvait représenter la quantité de débris tombant du ciel. Mais cette fois-ci, Varsovie en est convaincue, cet acte était délibéré. La Pologne a d'ailleurs demandé une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour autant, force est de constater que des doutes persiste, et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Muriel Domenac, ancienne ambassadrice de France à l'OTAN. Bonjour madame.
Bonjour.
Selon vous, que peut-on dire donc ce midi de l'intentionnalité de la Russie derrière cette violation de l'espace aérien polonais ?
On sait que c'est un test à la fois de notre détermination, nous, Européens, avant tout, parce que c'est nous que ça concerne d'abord, à dissuader une attaque et à se défendre le cas échéant. Et c'est forcément une provocation envers les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les Russes intensifient leurs attaques sur l'Ukraine, et c'est évidemment une dérivée de l'intensification des attaques sur l'Ukraine, alors que le président Trump a rencontré Vladimir Poutine le 15 août à Anchorage en Alaska. C'est une provocation parce que le président Trump a reçu le président polonais la semaine dernière à Washington. Et c'est une provocation parce que un certain nombre de ces drones venaient de Biélorussie, alors que l'administration Trump prévoit de reprendre le dialogue avec les Biélorusses. Donc, test de la détermination de l'Alliance et en particulier des Européens, parce que nous sommes en première ligne, et provocation envers les États-Unis. Ce serait intéressant de voir comment les États-Unis réagissent, mais dans tous les cas, nous Européens, il faut que on comprenne que la Russie est dans une stratégie de pression et que pour être crédible, on ne doit pas être faible.
Les États-Unis d'ailleurs, qui officiellement du moins n'ont toujours pas répondu. Ils ne sont pas exprimés hein, sur cette
Absolument, on a intrusion. Eu un tweet assez ambivalent du président Trump, et je parlais ce matin avec un ami polonais, au demeurant assez conservateur, et vous savez que le président polonais, ce qui n'est pas le cas du Premier ministre, est assez proche de la mouvance MAGA américaine. Et il me disait, malheureusement, aux États-Unis, l'affaire est écrasée par le meurtre de cet influenceur d'extrême droite. Et ça dit beaucoup sur les priorités américaines. Et nous, Européens, combien de fois doit-on entendre? On l'a réentendu de la part du secrétaire d'État à la Défense hier, Pete Hegseth, America First. Combien de fois doit-on entendre America First pour comprendre qu'on doit réarmer? Évidemment, on souhaite tous que les États-Unis interviennent à nos côtés, et à titre personnel, je serais étonnée qu'il n'y ait aucune réaction américaine, mais les Européens doivent prendre leurs responsabilités et renforcer à la fois le soutien à l'Ukraine et la défense aérienne de la Pologne. C'est du reste qu'on a commencé à faire. Vous avez entendu qu'Emmanuel Macron a annoncé que la France contribuerait au renforcement de la défense aérienne polonaise.
Alors, de son côté, Varsovie a demandé à l'OTAN d'activer l'article 4 du traité. En quoi consiste précisément ce dispositif, et puis est-ce qu'il est régulièrement activé ?
Il a été activé 7 fois dans l'histoire de l'Alliance, dont 5 fois par la Turquie, notamment dans le contexte des différents conflits au Moyen-Orient. Ce qui marque tout le monde, c'est que la dernière fois où il a été activé par des alliés du flanc oriental de l'Alliance, c'était le 24 février 2022, c'est-à-dire le jour de l'agression de l'Ukraine. Et ce qui marque tout le monde également, c'est que à l'époque, juste avant l'agression de l'Ukraine, la Russie avait conduit un exercice qui s'appelle Zapad. Zapad, ça veut dire « ouest » en russe. Et cet exercice, il sera de nouveau conduit pour la première fois depuis 2021 à partir de vendredi. Donc, on voit bien qu'on est à un palier. Je voudrais quand même expliquer que l'article 4, c'est ce qui précède l'article 5, donc ça n'est pas l'article 5, et que l'article 4, il est de droit. Lorsque un allié voit sa sécurité, son intégrité territoriale ou son indépendance politique mise en cause, et que si la Pologne invoque l'article 4 et pas l'article 5, si elle-même ne parle pas d'attaque armée, c'est qu'elle réagit avec sang-froid. Donc, pas de panique.
Une dernière question. Vous évoquiez effectivement ces manœuvres militaires qui vont débuter demain entre la Russie et la Biélorussie. En réaction, la Pologne a annoncé à son tour un exercice militaire similaire qui devrait réunir 30 000 soldats de plusieurs nationalités sur son sol. Est-ce que cela signifie qu'au-delà de ces seules intrusions donc aériennes, on assiste à une escalade à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie ?
On a sans aucun doute une escalade de la part de la Russie, et depuis la rencontre de Poutine avec Trump. Et c'est ça qui est significatif, c'est-à-dire que le président russe considère que en intensifiant ses attaques contre l'Ukraine et en prenant le risque, tout au moins, d'effet de bord sur le flanc oriental de l'Alliance, par quoi, en fait, il teste notre détermination, eh bien, il aura davantage de gains. Donc, il y a une escalade russe, on a parfaitement les moyens de dissuader et de se défendre le cas échéant. Donc encore une fois, pas de panique, mais il faut prendre au sérieux la situation. Et pour avoir davantage de défense aérienne en soutien de l'Ukraine et de la Pologne, pour nous également, on est obligé de réarmer justement pour éviter l'escalade.
Merci, c'est bien compris. Merci Muriel Domenac, donc ancienne ambassadrice de France à l'OTAN, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à Louise Guérin pour la préparation.
Il était présenté comme le nouveau faiseur de roi de la droite américaine.
Oui, celui qui était parvenu notamment à murmurer à l'oreille de la jeunesse grâce à ses podcasts les plus écoutés du pays, mais aussi de véritables joutes oratoires qu'il organisait sur les campus universitaires. Charlie Kirk, donc un influenceur conservateur, a été tué par balle hier lors d'une réunion publique dans une université. Les recherches sont d'ailleurs toujours en cours pour trouver le tireur, dont les motivations forcément restent pour l'heure inconnues, ce qui n'a pas empêché le président Donald Trump d'accuser aussitôt les discours de la gauche radicale d'avoir contribué, selon lui, au meurtre de l'un de ses fidèles alliés politiques. De son côté, l'ex-candidat démocrate à l'élection présidentielle, Kamala Harris, a estimé que la violence politique n'avait pas de place en Amérique, manière sans doute d'interroger cet assassinat comme un symptôme possible d'une violence que certains redoutent de voir s'imposer comme une nouvelle normalité aux États-Unis. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Alors, qui était Charlie Kirk, originaire de la banlieue de Chicago, un père de 2 enfants, donc qui avait abandonné ses études pour se dévouer au militantisme jusqu'à s'imposer, donc à 31 ans, comme une figure incontournable du mouvement mouvement MAGA.
Oui, hein, Charlie Kirk, c'était le visage du trumpisme pour la jeunesse américaine. L'entourage de Donald Trump repère dès la première campagne en 2016 ce jeune homme nationaliste chrétien pour la peine de mort, pour le port d'armes, le mariage, obsédé par le déclassement de l'homme blanc contre l'avortement qu'il compare à l'Holocauste. À 18 ans, il a déjà créé son propre mouvement, Turning Point, qui compte aujourd'hui des milliers de membres. Et c'est comme ça qu'il est donc amené à participer à la première élection de Donald Trump. Presque 7 millions d'abonnés sur Instagram, 4 millions sur YouTube, des millions encore sur X, sur TikTok. Charlie Kirk, c'est surtout une méthode, hein, un média global à lui tout seul, podcast, réseaux sociaux et présence sur le terrain, dans les campus où il organise des débats. C'est vraiment un redoutable débatteur, capable de démonter un à un tous les arguments de ses opposants. Il a très largement contribué à déringardiser l'image des conservateurs et des évangélistes en adoptant les codes de la jeunesse et leurs outils, les réseaux sociaux. Et c'est notamment cette conquête de l'électorat jeune qui a permis la dernière élection de Donald Trump.
Merci Claude Guibal. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par de nouvelles pluies à l'ouest. Partout ailleurs, les éclaircies résisteront à cette heure d'automne. Quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.